Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
J'encourage aussi les parents à faire ça. Il faut vraiment écouter ses enfants, les laisser en fait s'épanouir. Parce qu'une personne épanouie, c'est une personne qui donne plus justement ce qu'elle aime et une personne qui réussit dans sa vie. Un objectif pro, je pense que ça va être plus lié à ma passion, on va dire. Ça va peut-être développer, on va dire, le monde du fitness un peu plus au Maroc, revenir aux sources. Je pense que des jeunes diplômés, généralement, on a certes fait un choix d'orientation, on va dire, académique, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Et les stages nous permettent réellement de savoir est-ce que c'est, on va dire, la bonne voie qu'on a choisie au début, si on a d'autres vocations ailleurs. Et je pense que les stages, vraiment, c'est, il n'y a pas mieux finalement que la pratique. Hein.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui dans Job Story, c'est Hamza Iyadi. Il est notamment manager IT au sein d'un grand groupe d'assurance italien, mais aussi coach sportif de la passion, de la niaque et surtout beaucoup de talent. Hamza Iyadi, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci de me recevoir.
Tout le plaisir est pour moi, Hamza. Alors, je le fais très souvent dans Job Story. On commence toujours par un petit, on va dire, un petit flashback, un retour en arrière. Comment tout a commencé sur le plan professionnel? Parlez-nous un peu de, on va dire, vos premiers pas dans l'univers professionnel. Vous avez fait quoi?
Écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai démarré, en fait, on va dire, mon parcours en partant de Tanger, déjà. Donc, j'ai commencé à Tanger. J'étais diplômé de l'école de l'INSEJ de Tanger sur un domaine qui est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc déjà un basculement, on va dire, 360 par rapport à mon diplôme. Donc je suis normalement en finance et j'ai eu l'opportunité de partir à Paris pour un stage de fin d'études en système d'information.
Déjà,
c'est un premier risque que j'ai pris au début. Je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai démarré, on va dire, étant stagiaire. Au fur et à mesure, le domaine était un peu passionnant, alléchant, et je suis resté dessus depuis.
D'accord.
Donc là, j'ai enchaîné, on va dire, au fur et à mesure, des petites missions, des projets, des entreprises différentes, toujours dans le secteur des systèmes d'information.
D'accord. Donc, tout a commencé, on va dire, par un stage.
C'est ça, exactement, oui.
C'est hyper important parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne prennent pas ça au sérieux et je trouve ça très dommage. Les stages, je trouve qu'en tous les cas, on apprend quelque chose. C'est-à-dire soit on apprend sur le plan professionnel ou sinon au pire, on apprend sur le plan humain. Parce qu'en entreprise, on le sait, voilà, il y a beaucoup de personnalités, beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes qui gravitent autour de nous. Donc si on n'apprend rien, on va dire, sur le plan professionnel et qu'on n'est pas vraiment intégré, etc., au pire, on apprend à gérer un petit peu les tempéraments des gens pour plus tard. Si on est dans des entreprises, on arrive un petit peu à surfer sur la vague en quelque sorte.
Non mais tout à fait, hein. Surtout que je pense que des jeunes diplômés, généralement, on a certes fait un choix d'orientation, on va dire, académique, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Et les stages nous permettent réellement de savoir est-ce que c'est, on va dire, la bonne voie qu'on a choisie au début, si on a d'autres vocations ailleurs. Et je pense que les stages, vraiment, c'est... Il n'y a pas mieux finalement que la pratique. Hein. Donc, c'est ce qui ouvre un peu les perspectives et surtout la connaissance de soi avec les stages.
C'est vrai, je vous rejoins parfaitement sur ce point. Et c'est vrai que des fois, on fait des études dans un domaine spécifique en ayant cette idée qu'on va vraiment qu'on va exercer dans ce domaine. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on se retrouve dans un autre univers. D'où l'importance aussi, je pense, de rester un peu flexible et de ne pas rester, on va dire, rigide sur le plan de ce qu'on a envie de faire, etc., de garder un petit, on va dire, une petite porte ouverte et se dire on ne sait jamais.
C'est pour ça que moi, j'aime bien souvent dire que l'orientation, c'est un chemin, ce n'est pas un choix.
C'est vrai.
Donc, on peut, au courant de notre chemin, changer de destination, faire des arrêts, voir tester de nouvelles choses. Et donc, il ne faut pas vraiment rester rigide et figé sur une seule obsession d'arriver à un stade. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les jeunes, on va dire les jeunes lauréats ou les jeunes étudiants qui vont démarrer dans leur carrière professionnelle. Il faut vraiment qu'ils soient un peu souples et ils se mettent un peu moins de pression que ce qu'on se fait aujourd'hui, j'ai l'impression.
C'est vrai, on devrait arrêter de... et on devrait aussi nous arrêter de leur mettre la pression, parce que c'est vrai que bon, là les choses ont commencé un petit peu à changer, alhamdoulilah d'ailleurs, les jeunes commencent un petit peu à choisir ce qu'ils aiment, ce qui les passionne, chose qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On nous mettait un petit peu une sorte de pression, fais comme ton cousin, comme ta cousine, comme la voisine, voilà, littérature non, c'est pas une orientation, fais plutôt économie, fais ci, fais ça, etc. Donc là, heureusement que ça commence un peu, voilà, on a des jeunes diplômés qui se lancent directement dans l'entrepreneuriat. Bon, ça peut un petit peu, on va dire, inquiéter les parents et tout, mais on les laisse faire un peu quand même. Et ça, c'est une très bonne chose et on devrait faire ça plus souvent.
Exactement, oui.
Et donc, Hamza, un stage, vous avez appris des choses, vous avez découvert un univers. Comment les choses se sont enchaînées pour vous avant d'en arriver au stade de manager IT?
Oui, donc du coup, bon, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le monde des systèmes d'information, on va dire, et qui ne sont pas, on va dire, ingénieurs de formation, donc le choix, il est vite, on va dire, tourné vers on va dire, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui est la connaissance métier impliquée dans le système d'information. Mmh. Donc moi, en fait, dès le début, j'ai travaillé dans le secteur d'assurance, donc c'était des développements, on va dire, informatiques pour le secteur d'assurance, dès le début. Donc du coup, automatiquement, c'était dans une perspective de chef de projet, de consultant fonctionnel. Donc c'était on va dire, des postes où j'apprenais vraiment le métier de la maîtrise d'ouvrage informatique. Donc j'ai commencé à faire de la rédaction de spécifications, de l'expression de besoins de nos clients, des tests. Donc ça a commencé vraiment en tant que consultant, on va dire, fonctionnel. Puis graduellement monté dans la chefferie de projet, jusqu'à arriver aujourd'hui au management. Et bien sûr, tout au long de ces années-là, j'ai eu des opportunités un peu à l'étranger. J'ai pas uniquement travaillé à Paris. Hein. Mm-hmm. J'ai été envoyé aux États-Unis pendant un an et demi. J'ai travaillé un peu à Londres.
Excellent.
Donc, j'ai travaillé avec des clients dans le secteur assurantiel qui avaient un besoin de s'élargir sur les marchés assurantiels avec des outils que nous, on venait ici, là-bas, pour les aider à les développer.
Mm-hmm. Donc, en quelque sorte, petit à petit, l'oiseau a fait son nid.
Oui, oui, oui. Après, je pense qu'il faut être un peu rigoureux et acharné au début pour...
Ah, oui.
Faire ses preuves, il faut vraiment, il faut pas ménager ses efforts, surtout au début. Les premières années, ça c'est vraiment un conseil qu'il faut vraiment donner aux jeunes. Lorsqu'on commence, il faut pas déjà commencer à être exigeant en termes d'horaire de travail.
Ouais.
Là, je parle bien sûr dans un monde corporate, hein.
Mm-hmm.
Parfois dans un monde d'entreprise, dans un monde corporate, il faut vraiment au début et faire ses preuves, montrer qu'on est capable de responsabilité et il ne faut pas avoir peur, il faut oser.
Ouais,
c'est vrai. Sans ça que généralement la direction donne petit à petit plus de responsabilités. C'est comme ça que j'ai, on va dire, gravi les échelons un peu, on va dire, plus ou moins rapidement. Et j'ai eu facilement, on va dire, des postes de management assez tôt dans ma carrière.
Mm-hmm.
Donc il fallait prendre des initiatives, il fallait montrer qu'on est capable de prendre responsabilité. Et voilà, après, c'est un peu, on va dire, j'ai un peu forcé le destin pour partir aussi à l'étranger.
Mm-hmm.
Parce qu'on avait des clients, on va dire, dans le secteur qui avaient des besoins ponctuels. Du coup, j'ai fait en sorte de, on va dire, de pousser un peu le bouchon pour partir aux États-Unis. C'était quelque chose que je voulais faire.
Mm-hmm.
Je voulais, on va dire, tester le marché du travail anglophone un petit peu, anglo-saxon. Et du coup, ça a bien fonctionné. Mais malheureusement, il y a eu le Covid.
Ouais.
Donc là, retour à Paris. Retour à Paris après.
Ouais.
Et depuis, bah, en fait, j'ai refait une nouvelle expérience après avec notre fameuse assurance italienne que vous avez évoquée au début.
Excellent, excellent. C'est vrai que c'est hyper important de faire ses preuves, de s'acharner au début. Et je pense aussi, c'est hyper important aussi pour les responsables au sein d'entreprises de tendre la main aux jeunes qui commencent à travailler, de les aider. S'ils voient qu'ils ont du potentiel, de les encourager. Et puis voilà, donc ça va dans les deux sens. Et les jeunes doivent effectivement, vous l'avez si bien dit, faire leurs preuves, s'acharner, sortir de leur zone de confort, prendre des risques, etc. Et le management aussi doit les encourager dans ce sens et leur tendre la main. Parce que c'est hyper important et on s'en souvient toujours. Il y a des fois des personnes qui ont voilà, la cinquantaine, etc. et qui se rappellent du premier manager ou du premier responsable qui leur a donné leur opportunité. Ils s'en rappellent, ils se rappellent du nom, de la situation, du contexte, de tout. Donc c'est hyper important, je pense, de leur tendre la main aussi.
Oui.
Quand
oui,
vous
oui,
voyez qu'ils ont du potentiel, bien sûr qu'ils ont du potentiel et qu'ils ont... de l'ambition.
Tout à fait. Moi, j'ai eu cette opportunité-là d'avoir des gens élevés autour de moi, on va dire, qui m'ont donné la chance d'avancer, d'être dynamique et c'est un peu aussi grâce à eux, grâce à, on va dire, c'est, on se crée en fait un environnement positif et on essaye d'avancer tous ensemble. Et on va dire, c'est tout le monde est gagnant-gagnant dans le monde du travail. Il y a pas de, c'est pas de la charité. Il faut se le dire. Hein.
C'est vrai.
Si un manager vous donne votre chance, c'est qu'il voit du potentiel en vous.
Ouais.
Donc il faut avoir du potentiel et un peu. Voilà, il faut que vous ayez en mettant des personnes bienveillantes et du potentiel en vous. Donc c'est la combinaison qui fait que on peut avancer rapidement dans notre carrière.
Effectivement, je vous rejoins parfaitement. Hamza, est-ce qu'il y a eu un moment, on va dire pas déclencheur, mais une sorte de déclic, le jour où vous vous êtes dit c'est bon, je sais dans quel sens je veux aller, je sais vers quoi je veux m'orienter. Est-ce qu'il y a eu ce genre de moment, d'instant, ou est-ce que les choses se sont faites de façon naturelle et spontanée, se sont enchaînées comme ça par la force des choses en quelque sorte?
Bah, honnêtement, non, il n'y a pas eu de moment déclencheur. En tout cas, pas sur ce secteur sur lequel, on va dire, j'ai fait ma carrière. On va dire, le monde déclencheur, il a été plus pour le parallèle que j'ai fait dans le monde du sport, du coaching. Mais sur ma carrière, on va dire professionnelle, c'est un enchaînement logique des choses et une évolution, on va dire, pragmatique de ma carrière. Après, en fait, généralement, il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui veulent trouver ce qu'ils aiment pour avancer, et à ceux qui sont dans le pragmatisme pur et dur pour avancer dans leur carrière. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est des choix à faire.
Je suis tout à fait
il faut juste après les assumer et avancer avec. Dans tous les cas, il y a des personnes qui veulent faire de leur passion un métier, et il y a ceux qui veulent avoir un gagne-pain, tout simplement.
Effectivement. Et c'est vrai que chacun choisit le chemin qu'il veut. Après, comme vous l'avez dit aussi, on assume juste voilà, ce qui vient avec le bon et le mauvais. Il y a des personnes, comme vous l'avez dit, qui choisissent le salaire, la stabilité financière et même des fois le statut, le titre. Pour des gens, c'est hyper important. Il y en a d'autres, non, en fait. Ils ont une passion. Ils ont envie de créer des t-shirts et ils le font. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais ils sont épanouis. Ils aiment beaucoup ça. Et tôt ou tard, ils finissent par gravir les échelons et par avoir plus de rentabilité, etc. Voilà, c'est du cas par cas et ça nous ramène encore au point de, voilà, chacun a son histoire en quelque sorte.
Exactement, oui.
Et donc vous êtes actuellement manager IT, brièvement, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre mission dans cet univers, dans ce domaine ?
Bah, manager IT, on va dire, c'est plusieurs missions dans le même poste. Il y a déjà la partie, on va dire, supervision de la stratégie digitale de l'entreprise. Déjà, cette partie, on va dire, managériale, on va dire, de top-down. Donc, on essaye de partager, on va dire, la stratégie globale du groupe envers les salariés de chaque équipe. Après, il y a la partie, on va dire, supervision des projets informatiques. Donc, c'est un niveau plus opérationnel.
D'accord.
Et il y a finalement, on va dire, toute la partie budget, gestion de budget des systèmes IT. Donc, on va dire, c'est différents, on va dire, sujets qui rentrent dans le périmètre d'un manager IT. Après, bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails. C'est des choses assez techniques.
Ouais.
Mais on va dire, il y a beaucoup de pilotage, beaucoup de suivi des équipes. J'ai beaucoup d'ingénieurs informatiques dans mes équipes. Donc, c'est assez intéressant comme poste, honnêtement. C'est pour ceux qui aiment le management, surtout. Parce que le management, c'est beau, mais c'est aussi stressant.
Ah oui,
la responsabilité derrière.
Ouais.
Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, mais qui refusent le management parce que ils ne veulent pas rajouter ce stress à leur charge.
C'est vrai.
Du coup, en fait, c'est des profils qui sont faits pour le management, d'autres un peu moins.
C'est vrai.
Et voilà, il faut de tout pour faire une entreprise, de tout pour faire un monde.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont hyper compétents, mais l'aspect, parce que quand on gère en fait des équipes, on gère l'humain aussi. Donc il faut vraiment avoir les épaules pour ça. Il y a des gens qui se disent non, moi j'ai envie de me gérer moi-même. Déjà, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir à ma charge une équipe. Je ne saurais pas comment les gérer, comment faire, comment mettre des limites, comment être sympa. Parce que des fois, c'est hyper compliqué de trouver cet équilibre entre bienveillance, sympathie et aussi un petit peu de, on va pas dire autorité dans le sens voilà, pur jus de l'autorité comme on l'imagine, mais voilà, un peu de être un peu strict, etc. C'est un peu compliqué à gérer pour certaines personnes. Et voilà, comme vous l'avez si bien dit, il y a des personnes qui sont faites pour ça, qui aiment ça, et d'autres non. Et c'est comme ça qu'on construit une entreprise, une société, un pays, un monde, etc.
Et surtout, il n'y a pas de règles. On peut très facilement, en fait, manager des outils, on peut très facilement manager, on va dire, des chiffres, mais manager l'humain, l'humain est très complexe. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de théorie, on va dire, prête à l'emploi pour dire, OK, est-ce que je dois être un manager participatif, un manager collaboratif, un manager autoritaire? C'est vraiment, ça, c'était des études qui ont été faites il y a longtemps, mais je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, on a le recul pour dire, en fait, c'est du cas par cas.
C'est vrai.
Il faut être tout à la fois. Il faut être en même temps autoritaire quand il le faut. Il faut être souple. Il faut être participatif, dépendamment de chaque profil.
Ouais.
Et on est tous très différents. Donc, c'est là où, en fait, un manager, on va dire compétent, a ce recul de s'adapter, en fait, à ses équipes.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Hamza Iyadi, le coaching, on y arrive. À quel moment vous avez ressenti ce besoin de coacher, le coaching sportif?
Très bonne question. En fait, c'est plus mon entourage qui m'a un peu encouragé à le faire, parce que j'ai toujours été ça, on va dire. Là, d'accord, on parle de passion. Au début, je parlais de carrière pragmatique.
Ouais.
Là, je parle de passion et j'ai toujours été passionné par le sport. J'en ai toujours fait à différents niveaux. J'ai testé beaucoup de sports et j'ai toujours été quelqu'un de très, on va dire, très dynamique, très, très actif. Et on va dire, il y a quelques années, je me suis dit, Pourquoi pas capitaliser sur mon, on va dire, sur mon savoir sportif. Et je me suis un peu lancé dans l'étude d'une certification étrangère pour le coaching de, ça peut être CPT, Certified Personal Trainer. Donc on va dire, c'est du coaching personnel en tout ce qui concerne le fitness, la nutrition, l'exécution de mouvements. Donc c'était quelque chose, en fait, que j'avais une volonté de le capitaliser, et avec des personnes, on m'avait un peu orienté sur le choix de formation à passer. Après, je me suis lancé, ça servira toujours, en fait, au moins à vulgariser des fois certains concepts de fitness, de sport, que les gens, des fois, ont peur et ne connaissent pas.
C'est vrai.
En fait, c'est démystifier un petit peu ce monde de fitness. Tout le monde se prétend coach, mais très peu de conseils sont vraiment adaptés à certaines catégories de gens. Donc, du coup, je me suis dit, au moins, lancer une vague d'explications sur les réseaux. Donc, c'est là où je me suis lancé sur les réseaux sociaux un petit peu. J'ai créé ma page, ça s'appelle Iyadi Coaching. J'essayais un petit peu de donner quelques conseils, que ce soit sur des modes d'entraînement, que ce soit de la nutrition, comment s'entraîner pendant le ramadan, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et au début, c'est vraiment à but non lucratif. Hein. C'est vraiment un partage de connaissances. C'est vraiment orienter les gens, les aider. Et étant donné que j'ai une carrière, on va dire, à plein temps, je n'ai pas voulu, en fait, rentrer dans ce challenge de dire, OK, je prends des clients et les accompagner dans leur transformation de fitness, parce que ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont prédéfinis, préétablis, qui sont vendus à n'importe qui et n'importe comment. Et ça fonctionne pas comme ça.
Bien sûr.
Le coaching en fitness, c'est quelque chose qui est vraiment aussi très personnalisé et qui prend beaucoup de temps. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser la morphologie, le métabolisme de la personne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est comme ça, en fait, que... Bon, pour revenir à la question, c'est comme ça que je me suis un peu lancé. C'est venu comme ça, vraiment, au fur et à mesure aussi des échanges que j'ai eu avec mon entourage. Et why not?
Excellent.
Je me suis lancé.
Et c'est tout à votre honneur, justement, cette envie de partager, notamment sur les réseaux sociaux, et le faire dans un but juste de partage. C'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que le fitness, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens sur les réseaux, encore une fois, on voit des profils de personnes hyper sportifs qui vendent ça comme si c'était quelque chose d'hyper facile, d'hyper simple à mettre en place. Et les gens se sentent un peu coupables parce qu'ils se disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas ce corps. Moi, comment je vais faire pour faire ça? Comment je ne pourrai jamais y arriver ?» C'est bien d'avoir aussi des gens autour, comme vous, qui démystifient un petit peu cet univers et qui respectent la morphologie, le corps de chacun. Il y a la psychologie aussi de la personne. Et faire de ça du cas par cas. Encore une fois, ça nous ramène à chacun son histoire, chacun son vécu, chacun son métabolisme. Et je pense que c'est très... c'est tout à votre honneur, justement, d'avoir choisi de faire tout ça et de partager, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à équilibrer entre votre poste, votre carrière pragmatique et votre passion?
Au début, en vrai, quand je me suis lancé dans le coaching, c'était un peu compliqué parce que je voulais trop donner de mon temps à ça. Et malheureusement, en fait... soit, à un moment donné, pour sacrifier quelque chose. Donc, j'ai commencé à sacrifier mes propres, on va dire, horaires d'entraînement pour essayer d'accompagner des personnes dans des séances, de les accompagner physiquement dans des séances d'entraînement, d'essayer de, on va dire, de les coacher.
Ouais.
Mais en rajoutant cela aux horaires, on va dire, bureau, comme tout le monde à peu près, des 8h, 9h de travail par jour, en fait, je me retrouve très facilement à ne plus m'entraîner moi-même. Du coup, je me suis dit, je vais un peu on va dire, réduire la vitesse.
Ouais, freiner un peu.
Voilà, j'ai un peu freiné. J'ai pris 2-3 personnes, pas plus, à accompagner pour garder un peu de temps à moi. Mm-hmm. De base, c'est une passion, donc j'aime m'entraîner. Moi, j'ai toujours prêché en fait le sport par amour et pas par objectif. Mm-hmm. Donc moi, je m'entraîne parce que j'aime le faire. J'aime cette sensation de, on va dire, de souffrance pendant une séance. Mm-hmm. Et c'est ce qui me rapporte un bien-être, on va dire, psychologique et physique. Et du coup, en fait, j'ai réduit pour pouvoir en fait garder mon travail. Pour pouvoir équilibrer, sinon il y aura un déséquilibre et j'aurai plus de temps pour moi-même. Donc donc au début c'était un peu compliqué, maintenant c'est beaucoup plus facile. Et je verrai après, par la suite, comment on va dire, retrouver un nouvel équilibre, peut-être donner plus de temps au fitness, un peu moins de temps au corporate, je verrai. Ça, c'est pas encore quelque chose d'acté, on va dire.
Mais c'est mieux, on y va au feeling. Et quand les choses se présenteront, je suis sûre que vous saurez prendre la bonne décision. Hamza, on vient de parler brièvement de votre entourage, du fait que voilà, c'est votre entourage en quelque sorte qui vous a encouragé dans le sens, surtout vers le coaching sportif. Quel a été le rôle de votre entourage, cette fois de façon générale, dans votre orientation, votre épanouissement professionnel, etc. Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Voilà, comment ça s'est passé, sachant que on sait très bien le rôle de l'entourage, que ce soit la famille, donc qui nous aime généralement, mais aussi les personnes qu'on décide d'intégrer dans notre vie. C'est là où il faut faire hyper attention. Les gens qu'on décide de faire entrer dans notre vie, si on veut réussir professionnellement et si on veut réussir tout court, il faut vraiment être très sélectif. Bref, comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là, niveau entourage, famille, etc.
Bon, honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui est, on va dire, très à l'écoute et qui ne force rien. Donc déjà là, donc c'est déjà pour moi un grand avantage, c'est que on m'a jamais forcé à faire quelque chose. Donc on m'a toujours laissé le choix
de
partir là où je me sentais le mieux, même si j'avais pas vraiment de décision actée, là où on va dire par élimination ce que j'aimais le moins, je l'enlevais de mon radar et je regardais ce qui restait.
Ouais.
C'était comme ça par élimination. On m'a jamais forcé à faire, on va dire, que ce soit dans une orientation, on va dire, académique ou professionnelle. On m'a toujours laissé le choix. On m'a, on va dire, encouragé à aller et à ne pas avoir peur.
Excellent.
Donc ça, c'était, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir ça. Que ce soit de mes parents, de mon entourage, de mes amis, de tout le monde, on va dire. Et c'est ce qu'on faut. J'encourage aussi les parents à faire ça. Il faut vraiment écouter ses enfants, les laisser, en fait, s'épanouir. Parce qu'une personne épanouie est une personne qui donne plus dans ce qu'elle aime et une personne qui réussit dans sa vie. On veut que tout le monde réussisse, pour que tout le monde ait un bon salaire, pour que tout le monde ait les moyens de se permettre des choses. Oui, mais ça peut arriver, mais différemment. C'est le temps de faire les choses. Donc,
Effectivement. C'est un très beau message. Je vous rejoins parfaitement sur ce point aussi. Hamza Iyadi, avant de mettre fin à notre discussion, c'est quoi votre prochain objectif? Est-ce que vous avez un rêve, un objectif pro que vous souhaitez atteindre?
Un objectif pro, je pense que ça va être plus lié à ma passion, on va dire. Ça va peut-être développer, on va dire, le monde du fitness un peu plus au Maroc, revenir aux sources. Parce que là, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à mes sources. Donc, revenir aux sources, là où tu as commencé, peut-être développer quelque chose, un business avec peut-être une nouvelle méthodologie d'entraînement, quelque chose d'hybride qui existe déjà, mais avec, on va dire, une petite touche qui sera propre à moi. Donc ça, si y a un objectif à me fixer, ça va être ça, on va dire.
Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Hamza Iyadi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir raconté votre histoire, d'avoir retracé avec moi votre parcours. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci Karima, merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.